Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Ademek Koeta. Bonjour.
Bonjour.
Et Darnito, bonjour.
Bonjour.
Alors tous deux, vous êtes ici pour nous annoncer plusieurs concerts, dont l'un qui se déroulera demain, samedi 30, au temple de Poney-Saint-Auban, dans la Drôme. Et ce sera à quelle heure précisément d'ailleurs ?
Ce sera à 19h.
À 19h. Oui. Vous êtes musicien et vous jouez, pour vous, Arnito, de la guitare 7 cordes, oui. Et Adema de la cora. Vous avez fait aussi une petite prestation hier soir au Café Théâtre Andarta. Pour vous, qu'est-ce que c'est cette rencontre de deux continents musicalement ?
Eh bien, voilà, deux continents et deux instruments différents, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est avant tout une rencontre humaine. Je dirais qu'on s'est rencontrés donc en 2017. Notre rencontre, elle date de 2017 sur Thonon-les-Bains, parce qu'on est tous les deux originaires de Haute-Savoie. Enfin, originaires, pardon. On habite tous les deux en Haute-Savoie. Adama est originaire du Burkina Faso. Et donc, effectivement, Adama, lui, il a toute la culture mandingue et qui est une approche assez différente de l'approche occidentale. Mais bon, ça reste de la musique. Donc, c'est ça qui est magique avec la musique. C'est même si on joue des instruments différents qu'on a appris de manière différente et que le rôle de la musique dans nos sociétés n'est pas le même. Et ben c'est ça qui est magique dans la musique, quoi. C'est un langage universel et on peut dialoguer. On trouve toujours des terrains d'entente, en fait. Il suffit d'avoir les oreilles ouvertes. Et voilà. Donc après, au niveau des instruments, donc c'est tout, la kora, c'est Adama vous en parlera un peu oui. plus tout à l'heure. C'est
moi, c'est, voilà. c'est tout la guitare 7 cordes.
Voilà, alors personnellement, je vais parler de la guitare que je joue, donc une guitare à 7 cordes, donc c'est une guitare classique. La 7e corde qui différencie d'une guitare traditionnelle, c'est une corde grave, donc ça permet d'étendre la tessiture et notamment de permettre de développer des accompagnements plus un peu comme un bassiste, quoi. Enfin, voilà.
C'est une guitare fabriquée sur mesure, en quelque sorte ?
Celle-là, oui, c'est un luthier d'Annecy, en fait, qui l'a fabriquée. Donc, c'est un luthier que j'ai contacté, puis je lui ai demandé voilà, s'il pouvait me faire une guitare à 7 cordes. Alors, les guitares à 7 cordes, c'est quand même assez courant au Brésil. C'est beaucoup utilisé dans le choro, la musique, une des musiques populaires du Brésil. Donc voilà, donc le luthier en question a fait cette guitare un peu sur mesure, et on peut dire.
Je reviens un peu sur la musique, justement, au quotidien, comme au Brésil ou en Amérique du Sud, la musique est quasiment existante à chaque instant du jour. Est-ce que c'est le cas pour toi, Adama ?
Alors, je dirais...
Au Burkina Faso, est-ce
qu'on peut... Au Burkina Faso, oui. Sauf que moi, je suis né dans une famille de griots, comme on dit... donc une famille de musiciens, donc c'est vraiment une culture avec une transmission orale, vraiment, donc un héritage que nous avons hérité, enfin voilà, en tout cas de nos ancêtres. Nous, on est né trouver la musique dans la famille, donc on joue, on fabrique, on chante et on initie aussi. Donc moi, j'ai toujours fait que de la musique. Je suis grandi dedans, donc c'est mon métier. Voilà. Et plus particulièrement de la kora, qui est mon instrument de prédilection, on va dire. Voilà.
Un instrument que tu pratiques depuis beaucoup de temps,
bah, oui.
Depuis enfant même.
Oui, depuis enfant. Avant peut-être la kora, j'ai joué d'autres instruments, parce qu'on n'a pas que la kora dans la famille. On a d'autres instruments comme le balafon, le djembé... Et la flûte, le ngoni. Et après, chacun voilà, choisit l'instrument qui lui plaise et il le fait à son... En tout cas, il le pratique et puis voilà, ça devient son instrument de...
Et ton instrument que tu as ici au studio, il est fabriqué, il a été fabriqué en Afrique, ou alors est-ce qu'il y a des accessoires qui ont ou est-ce qu'il a été créé tout simplement en France aussi?
Alors cette koga, elle est très modernisée. Il n'a pas été fabriqué totalement au Burkina. Les kalebas sont venus du Burkina et les manches. Tout ça sont venus de Burkina. Et la seule chose qui a été changée, qui est un peu moderne là-dedans, c'est les mécaniques. Et qui sont à la fois les mécaniques des guitares et aussi de la harpe celtique. Donc, qui permettent justement de pouvoir monter d'un demi-ton ou de baisser d'un demi-ton, justement pour. Voilà. Pour pouvoir toucher plus d'horizon musical. Et donc, ça a été fabriqué ici en France, pour répondre à votre question. Voilà, avec un ami qui est luthier. Donc, on le fabrique ensemble. Voilà.
Tu parlais d'une famille de griottes. Qu'est-ce que signifie ce mot griotte?
Alors, le griot, ça signifie le gardien de la tradition, voilà, orale. Puisque c'est une tradition qui n'est pas écrite. Donc, il y a les griots musiciens, des griots conteurs, des griots danseurs, des griots qui font de la médiation, justement aussi, ou voilà, pour passer les messages à travers la musique ou à travers la voix, en tout cas. Voilà.
Et puis tu t'es exercé très jeune, donc lors de cérémonies, mariages, baptêmes. Ça t'a permis de t'enrichir musicalement. Mais, et d'ailleurs, est-ce que cette tradition d'orchestre ou de musicien dans des cérémonies perdure encore aujourd'hui? Ou alors est-ce qu'il y a une mainmise de la sono, du DJ qui remplace petit à petit?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça reste toujours présent dans, dans notre famille. On est toujours sollicité quand il y a un mariage ou quand il y a un baptême ou d'autres cérémonies. On est toujours sollicité puisque voilà, c'est vraiment notre métier. Et des gens qui sont très peu modernes, toi, qui respectent toujours cette tradition, qui veut toujours... de la musique live traditionnelle, font appel toujours à nous. Et nous aussi, on va vers, parce que même s'il n'y a pas, de baptême, on joue toujours à la maison, on joue toujours dans le quartier, parce que voilà, c'est plus de l'amour que de chercher à vivre aussi avec, parce qu'on attend déjà, on exerce, parce que voilà, c'est important. De l'exercer et de la transmettre. Et donc, on ne peut pas dire que même si les DJ, tout ça, ça prend de la place, mais en tout cas, nous, on exerce toujours notre boulot, enfin, en tout cas, notre tradition. Voilà.
Je retourne la question aussi à Arnito. Est-ce qu'en France, est-ce que tu remarques peut-être aussi un regain de ces cérémonies avec un orchestre? Est-ce que... ou pas?
Alors moi, de ce que j'observe, j'aurais plutôt tendance à dire que la tendance, elle est vraiment à engager davantage de musique, de DJ, et de, enfin dans, en tout cas tout ce qui est mariage, soirée privée. Alors les raisons, c'est... Je pense que déjà, je n'ai pas envie de généraliser, bien sûr, mais j'observe quand même qu'il y a un manque de curiosité quand même de beaucoup de gens. Je ne parle pas des musiciens ou des gens vraiment mélomanes, mais du grand public. Je vois dans les festivals, par exemple, à Ekadama, on en a fait l'expérience récemment. On a joué à un festival où c'est vrai qu'il y avait des têtes d'affiche qui était programmé, et nous on était programmé sur une scène un peu plus modeste, et c'est vrai que les gens vont vraiment s'agglutiner sur les scènes des têtes d'affiche sans forcément aller chercher à voir ce qu'ils connaissent pas, à faire l'effort de découvrir des styles de musique et des artistes qu'ils connaissent pas. Et dans les mariages et tout, moi j'ai par exemple mon frère qui est spécialisé dans les mariages et qui est du coup par la force des choses, en fait il est devenu DJ alors que c'est pas forcément ce qu'il cherche à faire au début. Mais les gens, c'est vrai qu'ils ont envie d'entendre les morceaux qu'ils connaissent avec l'interprétation qu'ils connaissent, et ça leur fait plaisir. Et du coup, en plus, c'est une facilité au niveau technique. Ça évite de trimballer une batterie, beaucoup de choses, et d'organiser les répétitions entre les musiciens, etc., de gérer les problèmes de disponibilité de chacun. Donc c'est vrai que les DJ se généralisent, et moi, j'observe qu'il y a quand même vachement moins de... Et même au niveau de la région où je viens, Annecy, par exemple... Il y a beaucoup moins de bars et de petits cafés comme ça qui programment des groupes en live, quoi. Alors que je prends un exemple tout concret, mais la fête de la musique pendant le Covid, l'année passée, donc il y avait que des DJ qui étaient dans les bars, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage, quoi, que ça se perde, en fait, ce côté groupe live, quoi. Alors que par exemple ici, on arrivait dans Adi et je disais à Dama, regarde, c'est génial, il y a dans tous les bars, il y a des petits concerts qui sont organisés. C'est une ville qui est beaucoup plus modeste en taille, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dynamique, quoi. Je sais pas, enfin, ça fait plaisir à voir, en tout cas, qu'il y a quand même des endroits. Donc après, moi, je peux pas généraliser partout. En tout cas, moi, je parle de la région où j'habite, mais quand même, en discutant avec les musiciens, on voit que c'est de plus en plus de place à des musiques enregistrées ou des DJ par rapport au groupe.
Le premier morceau que vous avez exécuté à l'introduction, vous pouvez nous en parler un peu?
Oui. Nissandia.
Alors, Nissandia, donc, qui veut dire bonne humeur. Voilà, en Djoula ou en Bambara, c'est les langues qui sont parlées au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en tout cas dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est des morceaux justement pour apporter l'ambiance, pour permettre voilà, au public de bouger et puis partager des moments ensemble. Voilà.
Ouais, je peux juste rajouter une petite chose. C'est qu'aussi, Nissandia, c'est le titre de l'album que nous avons enregistré il y a quelques années et qui est disponible au format vinyle et au format CD. Mm-hmm. Voilà. Et bien sûr, sur Internet, on peut le trouver en téléchargement sur tous les sites, Spotify, Deezer, etc.
D'ailleurs, vous avez quand même un grand nombre d'albums derrière vous.
Alors, ensemble, en duo, on n'a enregistré qu'un disque. Par contre, séparément, on a enregistré différents albums, effectivement, avec différents projets.
D'ailleurs, vous êtes musicien, j'imagine que vous jouez aussi avec d'autres, ou en prestation avec d'autres artistes, j'imagine. Est-ce que vous y arrivez, d'ailleurs, en tant qu'intermittent? Vous êtes intermittent, tous deux, aussi?
Alors, moi, oui, et Arnito, bientôt. Donc, voilà, et effectivement, on joue avec d'autres groupes. Moi, personnellement, j'ai plusieurs projets avec des styles de musique différents. Donc, d'où la place aussi de la kora pour justement toucher plusieurs styles musicaux. Voilà. Et donc, la musique irlandaise et la musique africaine se mélangent. Voilà, avec un peu de jazz aussi. Et avec un peu de style avec kora, slam ou du rap. Donc, il y a ça. Il y a aussi des projets pour le mélange avec la kora pour faire du bal folk, par exemple. Voilà. Des chansons françaises. Et du reggae. Enfin, voilà. Un peu de tout. Donc, ouais.
Arnito, je vois aussi que vous avez abordé la musique classique, ou du moins des concours autour de la musique classique. Vous en avez eu une formation d'ailleurs. Quelle est votre formation? Vous êtes passé par un conservatoire?
Alors, oui, le conservatoire, du coup, plutôt en département de jazz. Je n'avais pas suivi de cursus musique classique. Par contre, après, effectivement, j'avais eu l'occasion d'apprendre un peu, notamment l'orchestration, mais de manière un peu empirique, on va dire, c'est-à-dire en lisant des traités d'orchestration et puis surtout en écoutant beaucoup de musique classique. Voilà. Effectivement, c'était un des projets que j'avais réalisé. C'était un concerto pour guitare que j'avais écrit avec une pièce pour violon et orchestre qu'on a eu l'occasion d'enregistrer avec deux musiciens concertistes et l'Orchestre symphonique de Budapest il y a de cela 3 ans. C'était une expérience fort enrichissante d'ailleurs. Enfin, pas au point de vue financier, je veux dire, mais au point de vue, bien sûr, humain et de l'expérience musicale, parce que c'est quand même des pointures musicales, quoi. Donc voilà, à plein de niveaux. Et puis c'est un domaine tellement vaste, l'orchestration et l'écriture classique, que c'est qu'on commence à mettre un pied dedans, en fait, on s'aperçoit que c'est infini. Voilà. Enfin, comme beaucoup de domaines d'ailleurs dans la musique. Hein, mais...
voilà. Arnito, c'est votre nom d'artiste? Est-ce que vous utilisez le vrai?
Pas trop, non. En fait, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de projets et ça sont réalisés sous le nom de Arnito. Voilà.
Pour le deuxième morceau, est-ce que vous pouvez nous le présenter avant de le jouer?
Alors, le deuxième morceau s'appelle Jomaya. Jomaya qui veut dire sous-estimer quelqu'un. Voilà. Ne pas considérer quelqu'un comme étant inhumain. Voilà, c'est un peu fort. Donc, ça parle de la réalité de notre société, en tout cas dans la société traditionnelle africaine, souvent. Des gens qui ont peut-être plus de moyens que les autres vont peut-être se montrer et ou ne pas trop considérer l'autre par des comportements voilà, pas sympas. Donc là, c'est le message que nous amenons avec ces deux morceaux, c'est de dire on est tous égaux et apprenons à se respecter, à s'aimer, à s'écouter et à s'aider parce que quoi qu'il en soit, nous, personne n'a trois bras plus que l'autre. On a tous des bras, des pieds, une tête, et voilà, on est pareil.
Ah non, ah oui, pardon. Tu refais-moi juste l'intro. Là.
Bon. Okay. Merci.
Jomaya, how can I join you on Allah? Jomaya, John can I join you on Allah? Jomaya, Jomaya, my Jomaya, how can I join you on Allah? Jomaya, John can I join you on Allah? Jomaya, Jomaya, my Can I join in love? Go what it is, can I join in love? Jomaya, I'm gonna join you now. Jomaya, John can I join you now? Jomaya, Jomaya, my. Jomaya, I'm gonna join you now. Jomaya, John can I join you now? Jomaya, Jomaya, my.
De ces morceaux de musique, vous êtes tous les deux parties prenantes dans la composition ou alors chacun amène un morceau ou alors est-ce que vous arrivez à mêler vos compétences
Alors, je dirais que dans les morceaux qu'on a en commun et qu'on a développés ensemble, c'est quand même plus à chaque fois soit Damas, soit moi qui amène une idée de base, alors qui peut être soit vraiment très précise et en disant voilà, là ce serait chouette si on pouvait vraiment garder cette structure, ou alors après parce que chaque morceau est différent, justement essayer d'arriver avec une idée de base, mais après permettre à l'autre de pouvoir apporter ses idées, soit d'arrangement quoi en fait. Enfin dans tous les cas de figure, il y a toujours une grosse part d'improvisation aussi, parce qu'on joue, quand on joue sur scène en fait on se regarde et puis on arrive à garder des structures assez libres quand même. Donc ça passe beaucoup par le dialogue, ça passe par les regards. Et puis on essaye en fait, je pense que c'est ça dans la musique, quand on joue surtout dans des formules réduites, comme ça, duo, trio, il faut toujours être bien à l'écoute de l'autre, mais plus qu'à l'écoute, je dirais, essayer des fois d'anticiper sur les intentions de dynamique et de perspective, qui sont aussi vachement, je pense... induite par le public et l'environnement. C'est vrai que des fois, on sent tout de suite que là, ok, là, ce morceau, on va le raccourcir, on ne va pas faire de des solos trop longs, je ne sais pas. Et les dynamiques aussi, je pense, elles sont très induites par les lieux. Hein. C'est vrai que, par exemple, je m'aperçois, par exemple, si on va jouer au temple de... Je prends un exemple, mais dans une église qui résonne énormément, c'est vrai que je pense que les résonances ne vont pas forcément nous inspirer des rythmes très, très rapides, parce que sinon, les résonances vont vite être trop, trop présentes. Et donc, ça n'aura pas de sens en fait, de jouer des choses peut-être trop rapides. Inversement, on pourra plus prendre le temps avec de jouer avec les résonances. Et... Enfin, c'est un exemple comme ça qui vient à l'esprit. Mais c'est difficile de donner une généralité. Je pense que c'est vraiment l'instant en fait, qui nous guide. Et tout ça pour dire que oui, on arrive à... parce que là, je me suis un peu écarté du sujet, mais... Voilà, on arrive en gros à dialoguer et à établir des morceaux qui sont flexibles, en fait. Je pense que c'est le mot.
Au niveau du rythme, hein, donc d'adapter le rythme en fonction du lieu pour ouais. La réverbération, par exemple. Voilà.
Et puis aux spécificités des instruments, bien sûr, parce que, excusez-moi, je vous coupe, Yves, mais c'est vrai que, par exemple, la kora a une spécificité quand même. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'accorder sur une certaine tonalité. Alors Adama en parlera peut-être un peu plus, mais il a 21 cordes, ce qui lui permet d'accorder selon une gamme avec quelques petites subtilités pour ne pas faire forcément deux octaves exactement pareilles, enfin les trois octaves exactement pareilles. Mais faut en tenir compte aussi dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire des modulations trop importantes en cours de morceau, sinon ce sera aussi difficile à appliquer. La guitare, c'est pareil. Enfin, n'importe quel instrument, de toute façon, il y a des tessitures auxquelles on peut... Enfin, comment dire, faut prendre en considération. Et des tonalités qui vont mieux marcher que d'autres. Si on veut, par exemple, jouer avec les notes à vide, les cordes à vide de la guitare, par exemple, c'est ça, on ne pourra pas le faire si on est en mi bémol majeur, j'en sais rien. Enfin, c'est... voilà.
Eh bien, nous allons bientôt nous quitter. Avant de terminer avec un dernier morceau, est-ce qu'on peut peut-être vous retrouver sur Internet pour connaître un peu votre carrière, en quelque sorte?
Oui, alors on a chacun un site Internet. Donc, pour ma part, c'est www.arnito.net. Et pour Adama... qui est en train de...
Alors, pour moi, c'est un peu long, mais donc c'est adama-kuita-kokora. Voilà.
Je mettrai ces liens sur la page de l'émission. Ouais, juste une question, autant la musique occidentale, classique, en France ou ailleurs, elle joue beaucoup avec l'émotion. Est-ce que la musique africaine aussi a cette subtilité de l'émotion dans le jeu?
Oui, oui, ça dépend des morceaux justement, mais oui, bien sûr, il y a des morceaux. Et chez nous, le répertoire classique mandingue en général, chaque morceau a une signification. Il y a des morceaux qui apportent la joie, il y a des morceaux c'est la tristesse, des morceaux qui Et quand les gens ils entendent, ils savent que ce morceau est dédié à ceux qui partent à l'aventure, à ceux qui partent à la guerre. Ils ne savent pas s'ils reviennent ou pas. Et c'est le morceau pour le mariage, pour les femmes, les hommes, les enfants. Enfin, voilà, justement, ça existe aussi chez nous.
Moi, je pense que toutes les musiques, en fait, c'est partout dans le monde, il y a forcément un lien avec l'émotion. Et et moi, je pense même que c'est ce qui est magique d'observer comme ça plein de musiques dans plein de continents, c'est que le rapport entre les notes, partout dans le monde, il a la même signification. C'est-à-dire qu'un accord mineur, qu'on soit ici en France, en Afrique, en Inde, ce sera toujours, l'accord mineur va toujours, ou la tierce mineure va toujours avoir cette couleur un peu triste. Et cette tierce majeure toujours un peu joyeuse. C'est qu'un exemple, mais le rapport émotionnel de ce que j'ai pu constater, c'est que partout, il est le même. Et le rythme, c'est la même chose. La fête s'exprime toujours par des rythmes plus rapides. Et après, évidemment, les balancements sont différents, mais ça, c'est un côté magique de la musique. C'est vraiment un langage universel dans ce sens-là. C'est que c'est que les émotions sont les mêmes, véhiculées avec des subtilités et des langages différents, mais la base, elle est la même, quoi. C'est ça qui est magique. Alors, est-ce qu'on peut juste se permettre de...
C'est d'autres dates,
voilà,
bien sûr.
Exactement, parce qu'en fait, on fait une petite tournée ici dans la Drôme. Et donc, voilà, ce soir, on va jouer donc à La Roche Saint-Secret-Bacon à 20h30 à la salle communale. Demain, samedi, donc à 19h au temple de Poney Saint-Auban. Et ce dimanche, à l'église de Chichiliane à 18h. Voilà.
Avant de se quitter, on peut peut-être présenter le dernier morceau que vous nous jouez et qui terminera l'émission.
Ouais.
Alors, le dernier morceau, c'est justement un répertoire qui fait partie du répertoire classique mandingue, qui s'appelle Nankoumandian, donc qui est dédié à un des guerriers qui combattait justement à l'époque de l'Empire mandingue. C'était vraiment vers le 13e siècle, où il y avait l'Afrique de l'Ouest, était répartie entre plusieurs tribus, et donc il y avait des rois. Et il y avait un roi qui s'appelait Sundiata Keita, voilà, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu la culture mandingue. Et donc, Nankoumandian, voilà, il était un morceau qui était dédié à l'un des guerriers qui combattait aux côtés de Sundiata Keita, et voilà, qui sortait victorieuse à chaque combat avec l'ennemi. Voilà.
Eh bien, je vous laisse le temps de vous installer et puis je vous souhaite une bonne soirée à Adama et à Arnito.
Ben, merci beaucoup, Yves, pour l'invitation. C'était un plaisir.
Merci bien.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nankoumandian, 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 quelle est-ce qu'il fait?